Envoie-nous. Cette semaine, Antoine Ravon rencontre Didier Ribon. Ce soir, je n'ai pas moi.
Bonsoir Didier Ribon.
Bonsoir.
Alors depuis le début de la semaine, nous avons évoqué votre best-seller, on pourrait dire, Retour à Reims. On l'a évoqué quand on a parlé surtout de votre milieu d'origine, le monde ouvrier rémois de Reims. Mais ce qu'on a peu dit, c'est que c'était un succès énorme et c'était traduit dans une vingtaine de langues, en particulier dans le monde germanophone. C'était un livre qui a eu énormément de succès et qui a été adapté au théâtre, notamment par Thomas Ostermeyer. Donc c'est un livre qui revient sur votre trajectoire, mais c'est aussi un livre qui a entamé un virage dans votre propre trajectoire ou dans votre propre reconnaissance d'intellectuel. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Je ne sais pas. Comme j'avais écrit une biographie de Michel Foucault, où j'essayais de ressaisir la trajectoire à la fois intellectuelle et personnelle de Foucault, en les imbriquant l'une dans l'autre, que j'avais écrit « Réflexion sur la question gay », dans laquelle il y avait un investissement d'énergie autobiographique qui soutenait le livre, on pourrait dire que « Retour à Reims » était presque, dans la suite logique, appelé par ses livres précédents comme leur suite logique. En même temps, c'est vrai que ça a été une rupture dans le mode d'écriture, puisque j'ai toujours essayé d'écrire mes livres, que ce ne soit pas simplement des livres comme ça d'analyse ou d'écriture académique, j'ai toujours essayé de les écrire de manière un peu littéraire. Et là, j'ai voulu, si on peut dire, transgresser les frontières. Je n'ai jamais considéré que c'était un livre de littérature. Quand je vois dans des journaux allemands, on dit le roman de Didier Ribon. Je n'ai jamais considéré que c'était un roman, surtout pas, et ni un livre de littérature.
Non, mais c'est...
Mais il est vrai que j'ai voulu casser un petit peu l'opposition entre livre théorique et démarche plus littéraire, considérant qu'il y a souvent d'ailleurs dans la littérature beaucoup plus d'analyses théoriques puissantes que dans beaucoup des livres de sociologie ou de théorie que je suis amené à lire,
oui,
et où la théorie
dire,
est souvent assez pauvre. Oui.
Ça fait partie de votre méthode aussi de réfléchir à partir de la littérature et pas seulement à partir de textes théoriques, de sociologie. Et même dans votre méthode, j'y pense, ce qui fait à mon avis que ça a pu être reçu comme un texte littéraire, c'est que vous dites « je », vous appuyez sur votre propre expérience et c'est assumé comme tel pour le coup.
Oui, mais le « je » n'est jamais un « je » personnel, c'est toujours un « je » social. Quand je dis « moi », quand je dis « je », c'est toujours le « je » qui est produit. Et c'est ça que j'essaie de reconstituer. Je pars de « moi », de « je », et j'essaie d'analyser qui est ce « je » en le reconstituant, c'est-à-dire en l'inscrivant dans des structures sociologiques, géographiques, historique, sexuel, etc. Donc, le « je », c'est jamais « moi ».« Je », c'est la résultante, l'intersection de différents déterminismes sociaux, différentes structures sociales, différentes modalités de l'existence sociale. Et donc, le « je » est une sorte de point géométral d'organisation où toutes ces dimensions se rejoignent. Et c'est pour ça que j'ai employer le terme d'introspection sociologique, même si ça peut sembler un oxymore, puisque toute la sociologie durkheimienne s'est opposée justement à cette idée d'introspection. J'essaie d'aller voir au fond de moi-même comment ont fonctionné les déterminismes sociaux. Alors ça pose une question redoutable, est-ce qu'on est le mieux placé pour s'analyser soi-même sociologiquement. Donc là, je mobilise beaucoup d'instruments théoriques, historiques, sociologiques, pour essayer de mettre à distance tout biais psychologique, subjectif, pour que ça soit le plus sociologiquement objectif, et donc collectif. La question...
Mais il y a quand même beaucoup de passages qui sont des récits personnels. Vous parlez de votre mère, de votre père, de vos frères...
Oui, mais les récits personnels, effectivement, j'écris des personnages qui sont mon père, ma mère, mes grands-mères. Et j'essaie, quand je décris mon père, ma mère ou mes grands-mères, j'essaie de les décrire comme des types sociaux. Sauf le respect que je leur dois, je ne veux pas les réduire à avoir été simplement des types sociaux. C'était des personnalités. Je veux aussi leur rendre tous ces gens qui sont des anonymes de l'histoire, des gens que, dont il ne reste rien s'il n'y a personne pour écrire leur histoire. Je voulais aussi leur rendre une visibilité, une personnalité, une identité individuelle. Mais ça n'est possible de... Il y a une très belle nouvelle de Danilo Kish dans son recueil qui s'appelle Encyclopédie des morts. Et ce texte, la nouvelle s'appelle Encyclopédie des morts, c'est comment il va dans une bibliothèque, il y a un immense registre où sont consignées toutes les existences avec leur petite notice biographique. Et au fond, je veux faire ça, non pas de toutes les existences, mais répertorier et rendre visible un certain nombre d'existences
à travers
des types sociaux qui sont ignorés, oubliés de l'histoire, qui n'existent pas dans l'histoire parce que c'est des ouvriers, c'est des femmes de ménage, etc. Donc c'est rendre des existences individuelles visibles, mais en les rendant ces existences individuelles visibles, je décris des types sociaux. Ma mère, c'est un type social, mon père aussi. Et de fait, la littérature m'aide beaucoup parce que Retour à Reims, c'est un livre de sociologie, je peux dire d'investigation sociologique. Une des principales informatrices de cette investigation sociologique, c'est ma mère, que j'ai interviewée, qui m'a donné des éléments, des photos, des documents. Malgré tout, je retrouve des figures comme ma mère dans d'autres livres. Ma mère a toujours vécu sa vie dans la douleur d'avoir été une bâtarde. Et je retrouve dans le livre de Violette Leduc, La bâtarde, toute cette douleur d'avoir été la bâtarde mal aimée par sa mère qui lui faisait payer à cette pauvre petite Violette Leduc le poids de la situation qui avait été la sienne, abandonnée par le père biologique de l'enfant, etc. Et je retrouve dans Violette Leduc des choses qu'a pu me dire ma mère. Donc je confronte ce que je sais de ma mère, ou ce que je devine de ma mère, à des textes littéraires qui viennent remplir un petit peu les cases vides que je ne peux pas remplir si je n'ai pas d'autres éléments. Et de fait, la littérature m'apporte beaucoup. Alors je pourrais évidemment citer beaucoup de noms, les auteurs qui ont compté dans ma vie. Je parle de Violette Leduc, mais évidemment Claude Simon. Imre Kertész, Christa Wolf, plus récemment, et je la cite dans Le principe d'une pensée critique, Herta Müller, dont le livre La Convocation m'a semblé un livre tout à fait majeur. Je pourrais citer, comme ça les noms ne me viennent pas nécessairement à l'esprit au moment où je vous parle, mais c'est vrai que tout récemment Annie Ernaux, Édouard Louis, dont nous avons déjà parlé, et qui renforce dans ses descriptions littéraires, proprement littéraires, renforce d'une certaine manière l'idée que j'ai de ce que sont les types sociaux, et vient les documenter. Et je dirais aussi que Retour à Reims a produit de la littérature, a produit une littérature, puisque il y a eu un article dans un grand journal allemand qui dit Didier Ribon a ouvert un sas, a ouvert des serrures, et depuis il y a une efflorescence de romans autobiographiques, auto-analytiques, inspirés, ancrés dans les démarches sociologiques, qu'on pourrait appeler, dit ce journal, le genre Héribon. Alors, je serais content d'avoir créé un genre Héribon. Je n'ai pas écrit un livre pour ça, mais j'en suis très, très flatté et très fier. Mais ce qui me frappe, c'est que c'est un genre littéraire, ce sont des romans. C'est-à-dire que Retour à Reims a produit des œuvres théâtrales, comme celle notamment de Thomas Ostermayer à l'achat au Bühne, qui a été montrée à New York, qui a eu une version française, puis une version italienne, avec des acteurs différents. Donc, est
C'est
devenu.
rare en plus que des pièces de théâtre soient adaptées de textes sociologiques.
Oui, je crois que c'est la première fois qu'il le faisait. Et quand je lui avais dit, mais je vois pas comment on peut adapter un texte qui n'est pas, non seulement pas un texte théâtral, mais pas un texte littéraire, il m'a dit, c'est ça que je veux faire, utiliser un texte qui est un essai sociologique et pas un texte fait pour le théâtre. Donc, et il l'a fait avec le succès que retentissant qu'il a connu, que son spectacle a connu, et en Allemagne, et en Autriche, et en France, et en Italie, et en Angleterre, aux États-Unis, parce qu'il l'a joué dans une version anglaise également. Donc, que ce livre, qui pour moi était un livre de théorie sociologique, qu'est-ce que c'est que les classes sociales, qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire sociale, qu'est-ce que c'est que le système scolaire, qu'est-ce que c'est que la mobilité sociale, qu'est-ce que c'est que passer d'une classe à l'autre, qu'est-ce que c'est que revenir de la classe où on est arrivé vers la classe d'où l'on vient et d'où l'on est parti. Pour moi, c'était une sorte de tentative de restitution d'un parcours sociologique et à partir de ce parcours sociologique, de restitution globale du monde social et de son fonctionnement, comment ce livre-là, donc de théorie sociologique, est devenu un objet théâtral, le point de départ d'un genre littéraire, le genre Héribon. Donc il
Est-ce que aussi dans votre manière de dire je et de vous raconter dans cet essai, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit pour vous d'une psychanalyse, mais sans psychanalyse, sans tout l'appareil conceptuel psychanalytique?
Disons que c'est une exploration sociale des si je dis c'est une psychanalyse sociale, Bourdieu, au début de la distinction, dit ce livre est une tentative de psychanalyse sociale. Dès qu'on dit psychanalyse sociale, on retient tout de suite psychanalyse. Alors pour
Un
moi, il n'y a pas
oubli
de
social.
psychanalyse sociale possible. Si c'est social, ça ne peut pas être psychanalytique. Parce que psychanalyse, c'est appliquer des grilles de lecture universelle, le complexe d'Oedipe, la castration, la loi du père, etc., à des situations individuelles. Or, ce que moi je veux faire, c'est mettre en place des grilles d'analyse qui ne sont pas universelles, mais qui sont collectives, mais différenciées socialement, sociologiquement, et qui s'adressent non pas à des situations individuelles, moi dans mon rapport avec mon père et ma mère, ou dans ma famille, mais moi en tant qu'individu social, dans un monde social, né à telle époque, dans tel milieu social, avec les transformations du système scolaire, de la politique, etc., à l'époque où je suis né. Donc, je récuse l'idée je récuse la psychanalyse en général, et je récuse
Pourquoi
l'idée
vous
que,
récusez la
je récuse l'idée
psychanalyse?
que mon livre puisse être lu comme un livre de psychanalyse, même si on dit psychanalyse sociale.
Mais pourquoi alors n'aimez-vous pas la psychanalyse? Pourquoi cette colère une fois de plus contre la psychanalyse?
C'est une méfiance qui me vient qui remonte à très 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 loin. Quand j'avais 15 ans, la psychanalyse faisait partie de ces discours qui me pathologisaient en tant que jeune gay. J'étais un anormal aux yeux de la psychanalyse,
Mais
quelqu'un
est-ce que c'est
qu'il
encore le
fallait
cas
guérir,
aujourd'hui?
soigner.
Aujourd'hui, enfin, beaucoup de psychanalystes ne considèrent plus que l'homosexualité est une névrose, par exemple.
Beaucoup de psychanalystes,
Continuez,
vous
enfin.
êtes optimiste. Peut-être un certain nombre de psychanalystes, mais il y en a quelques-uns en France, je les connais tous d'ailleurs, je les estime dans leur effort, mais on ne peut pas sauver une science aussi conservatrice de l'ordre social et de l'ordre sexuel qu'est la psychanalyse en réaménageant ses concepts. Et je pense qu'il vaut mieux se débarrasser des concepts et élaborer d'autres instruments d'analyse et d'autres instruments de pensée
Oui, puisque
qui
vous,
sont
par exemple, vous
nécessairement
reprenez.
non seulement non psychanalytiques, mais anti-psychanalytiques. Quand j'écrivais Retour à Reims, un de mes amis m'a dit, oh, toi qui détestes la psychanalyse, tu vas bien être obligé de parler du complexe d'Oedipe puisque tu parles de ton père. Et je lui ai dit, je t'avoue que ça ne m'était même pas venu à l'esprit tellement c'était hors de mon champ de réflexion.
Mais ce qui est
Et je me suis dit,
intéressant, c'est que
pourquoi est-ce qu'on veut me
vous.
ramener au complexe d'Oedipe quand j'essaie d'analyser la difficulté entre mon père et moi, j'essaie de les ramener un rapport différentiel au système scolaire. Mon père est sorti du système scolaire à 13 ans et demi pour aller travailler en usine. Moi, j'ai eu la chance de faire des études plus longues et de devenir quelqu'un d'autre. Le problème, il est là. Donc, il faut remplacer l'Œdipe par le système scolaire, c'est-à-dire par la structure des classes. Donc, ce n'est pas une structure psychologique, c'est une structure sociale. Mais quand vous dites ça, vous êtes toujours ramené, parce que la psychanalyse est omniprésente dans notre culture, c'est un des discours comme ça qui circule de l'espace savant jusqu'aux magazines et aux émissions de télé les plus vulgaires. C'est un discours qui circule comme un ensemble d'évidences. Et quand vous dites les psychanalystes ont changé, vous avez vu comme moi, au moment des débats sur le mariage pour tous, sur le PACS, sur l'adoption, sur la PMA, que les psychanalystes n'avaient pas changé. Et que si ils acceptent aujourd'hui plus ou moins les homosexuels comme individus, ils n'acceptent pas les homosexuels comme couple, comme famille, comme parents, comme transformant la société. Donc leur hostilité s'est déplacée de l'homosexuel individu à l'homosexuel
parent. Mais là, vous faites référence à quel couple. Psychanalyste, par exemple, qui s'y opposait?
Toute la tradition lacanienne. Une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'est comment l'œuvre de Lacan a pu être une des grandes références de la théorie critique et radicale aux États-Unis. Et quand vous lisez Lacan, vous voyez que Lacan est un grand, grand, grand penseur conservateur, réactionnaire, sexiste, homophobe, pour qui il y a la femme qui est du côté de la nature et du soin, l'homme qui est du côté de la culture et de la politique. Tout ça, il le dit explicitement, qu'il va donner, dans un de ses séminaires, il dit « je vais donner à mes auditeurs la recette sur comment guérir les homosexuels, de leur homosexualité, pas des difficultés à vivre l'homosexualité, guérir l'homosexualité ». Tous ces textes sont disponibles, et c'est comme si personne ne les lisait, et vous voyez fleurir les concepts, la castration, le nom du père, le phallus, etc., y compris chez des auteurs qui sont des amis pour lesquels j'ai une très très grande estime, la rupture avec la psychanalyse est comme impossible, comme si rompre avec Lacan était plus dur que rompre avec...
Qu'une rupture amoureuse.
Qu'une rupture amoureuse, oui. Je crois qu'il n'y a pas, je peux le dire, je sais que l'énoncé va faire hurler, mais comme je ne me gêne pas de faire hurler, il n'y a pas de pensée critique possible tant qu'on ne se débarrasse pas de la pensée psychanalytique, notamment dans ses versions lacaniennes.
Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans votre travail, vous reprenez certains concepts de la psychanalyse, par exemple l'inconscient, mais vous lui donnez un sens totalement différent. Et en fait, hier on parlait de votre approche politique comme intellectuelle, mais parfois il y a presque une approche... je dirais métaphysique du sujet. Vous réfléchissez sur les inconscients, sur les dates de naissance. Vous pensez par exemple que en tant que gay ou en tant que fils d'ouvrier, vous pourriez être né au moment du procès d'Oscar Wilde ou au moment du Front Populaire en 1936 par exemple. Et donc tout ça pour dire que vous reprenez des concepts de la psychanalyse, mais que vous, je ne sais pas comment dire, dépsychanalysez.
Bien sûr, ce qui nous façonne au plus profond de nous-mêmes, c'est une sorte d'inconscient historique. L'inconscient, c'est l'histoire, c'est l'inscription dans notre corps de longs processus historiques. C'est une idée que j'ai trouvée formulée de manière magnifique dans le premier volume de l'autobiographie de Assia Djebbar, la romancière algérienne. Elle dit « Je suis né en 1842 ». Quand les troupes coloniales françaises ont envahi et incendié le village de mes ancêtres. Elle était née en 1937, donc un siècle plus tard. La date de naissance de l'autobiographie, pour l'autobiographie, c'est 1842. Ça veut dire qu'elle est née. Ce qu'elle est prend son point d'ancrage de naissance un siècle avant sa naissance biologique. Et je me suis posé, en lisant ça, c'était une illumination pour moi, je me suis dit, mais quand est-ce que je suis né? Moi, je suis né à la naissance à la révolution industrielle, quand naissent les grandes usines, quand apparaissent les grands syndicats ouvriers. Je suis né en 1936 dans les grandes grèves du Front Populaire. Je suis né le 13 mai 68 dans la grande manifestation des syndicats. De la même manière que je peux dire, parce qu'on a tous plusieurs dates de naissance, parce qu'on n'est pas une personne simple, homogène. Je suis né en 1895, au moment du procès d'Oscar Wilde, où la parole homosexuelle est condamnée au silence et où cette condamnation fait surgir une floraison de prises de parole qu'on retrouve chez Gide, chez Proust, dans le mouvement homosexuel de Magnus Hirschfeld en Allemagne. L'obligation de silence déclenche la prise de parole. Donc je suis né en 1895, où je suis né dans les grandes dates du mouvement ouvrier.
Ce qui veut dire que quand on arrive au monde, on hérite d'un passé nous façonne avant même notre arrivée dans notre inconscient, dans notre corps aussi.
Je parlais de Violette Leduc. Elle dit « Je suis une bâtarde ». Qu'est-ce que c'est qu'être une bâtarde? Vous ne pouvez pas comprendre le mot bâtarde si vous ne faites pas une histoire des structures familiales, de la domination masculine, à savoir qu'un homme couche avec une femme qui est enceinte, qui a l'enfant, qui garde l'enfant, et l'homme se... En plus, c'est une question de classe, en l'occurrence, chez Violette Leduc, l'homme, c'est le fils de la famille bourgeoise dans laquelle la mère de Violette Leduc était femme de ménage. Donc vous avez la question du genre, de la domination masculine et de classe de la famille bourgeoise, mais aussi toute une question de la structure familiale. Pour qu'il y ait une bâtarde, il faut qu'il y ait une idée de la naissance légitime et de la naissance illégitime. Or, la catégorie de la bâtardise a disparu. Ça veut dire que des catégories violentes comme bâtarde peuvent disparaître grâce en grande partie au mouvement féministe et à ses luttes. Donc, nous avons tous des dates de naissance historiques, sociologiques, qui ne correspondent pas, évidemment, à nos dates de naissance personnelles, biologiques. Et l'inconscient, c'est ça. Tout mon inconscient, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est pas que je suis né en telle année, c'est aussi ça, bien sûr, mais c'est que je suis né fils d'ouvrier. Qu'est-ce que c'est que la classe ouvrière? Qu'est-ce que c'est que le... Alors, sans remonter, comme pourrait le faire un historien à la Fernand Braudel, dans une histoire lente qui nous ramènerait au paléolithique, disons que nous avons tous... L'inconscient, c'est l'histoire, et ce que nous sommes est façonné par des structures sociales qui sont héritées de l'histoire. Et encore une fois, la phrase de Assia Djebar, « Je suis né en 1842, quand les troupes coloniales ont envahi et incendié le village de mes ancêtres », c'est une phrase qui doit tous nous amener à réfléchir, si on veut savoir qui on est, à réfléchir à les structures dont nous sommes les produits. Et forcément, des structures qui sont différentes pour chacun de nous, mais qui sont aussi des structures collectives, puisque les histoires individuelles sont, on le voit bien, inscrites dans des processus historiques.
Je me posais une question aussi par rapport au fait que dans votre, en particulier dans Retour à Reims, mais pas seulement, dans votre travail, vous vous dévoilez beaucoup. Vous dites beaucoup de choses sur vous, même si c'est pour parler des types sociaux, on l'a compris.
Trop, vous voulez dire?
Non, justement, ce que j'allais dire, c'est que à plusieurs moments, j'ai l'impression que ce dévoilement a buté devant l'image. Par exemple, vous racontez dans le livre qui suit Retour à Reims, qui s'appelle « La société comme verdict », que vous étiez réticent à mettre une photo de vous enfant, ou de la même manière, quand Thomas Ostermeyer a monté sa pièce de théâtre, il voulait vous filmer avec votre mère, et à ce moment-là, vous ne vouliez plus dévoiler, vous ne vouliez pas qu'on voit ce que vous avez été. Est-ce que donc la théorie, pour vous, c'est une manière de dévoiler, mais aussi de voiler un peu?
Bien sûr, parce que décrire des types sociaux, comme je dis, une typicité sociale dans un livre, avec les phrases, et c'est moi qui les construis, c'est moi qui les choisis, les mots que j'utilise, etc., c'est pas du tout c'est un niveau de dévoilement important, mais c'est pas du tout la même chose que de montrer. Et je peux décrire mon père, je peux décrire ma mère, mais d'un seul coup montrer leur image. Et je disais tout à l'heure que, ou hier, je ne sais plus, que la honte peut revenir à tout instant. Et de fait, je peux analyser le sentiment de honte que j'ai éprouvé à l'égard de mon milieu social, etc., le dépasser dans un livre. Et puis quand je suis confronté à la demande « Est-ce qu'on peut avoir une image de votre père? Est-ce qu'on peut avoir une image de votre mère ?» La honte revient, je ne peux pas montrer qui était mon père et qui était ma mère. Et en fait, Thomas Ostermayer, j'ai déchiré la photo pour l'édition de poche de Retour à Reims. J'ai déchiré la photo où il y avait mon père, comme ça il n'y a plus que moi. Mon père, on ne le voit pas, parce que je ne pouvais pas assumer qu'on voit mon père. Ça me semble ridicule quand je vous en parle aujourd'hui, mais je dois vous dire honnêtement que c'est ce qui s'est produit. Et pour ma mère, quand Thomas Ostermayer m'a dit « je voudrais filmer une séquence où tu parles avec ta mère », je lui dis « il n'en est pas question ». Il a insisté, et c'est mon compagnon qui m'a convaincu en me disant « toi qui te prétends radical, tu es radical, mais pas au point de montrer ta mère, qu'on voit ta mère sur un film, sur un écran de télévision, dans un théâtre berlinois ». Et je lui ai dit « mais de toute façon, elle ne voudra pas ». Et elle m'a dit « pourquoi tu ne lui demandes pas ?» avant de répondre à sa place. Et j'ai demandé à ma mère qui me dit « oh, mais bien sûr, je serais très contente ». Donc j'étais piégé par ma propre proclamation de radicalité, à laquelle j'étais rappelé par mon propre compagnon, qui trouvait que ne pas oser montrer sa mère sur un écran dans un théâtre était quand même une limitation par rapport à tout ce que j'avais écrit. C'est comme s'il y avait ici un point ultime que je ne pouvais pas dépasser, et qu'il fallait que je franchisse ce pas, que je saute ce pas, pour enfin accomplir la trajectoire jusqu'au bout. J'ai décrit ma mère, et maintenant on va la voir sur un écran. Et de fait, l'effet a été assez retentissant, puisque ma mère est devenue un personnage de théâtre sur écran, et elle crève l'écran, il faut bien dire.
Alors nous arrivons à la fin de notre série d'entretiens. Juste une question qui me vient très courte. On a vu votre trajectoire depuis Le Fils d'ouvrier, qui était promis à une exclusion scolaire, à cet auteur international et qui a créé le genre Héribon, le genre qui porte votre nom. Est-ce que vous êtes fier, vous, de cette trajectoire ?
Vous avez une question courte et brève, donc je vous ferai une réponse courte et brève. Oui, très, très fier, très heureux. Mais, parce que je ne sais jamais être bref sans dire un mais aussitôt après, je dois affirmer une certaine gratitude à l'égard de tous ceux qui m'ont permis de faire tout ça, à commencer par ma mère, et puis tous ceux qui, dans la vie, m'ont soutenu, aidé, à commencer par des amis comme Pierre Bourdieu, ou mes amis d'aujourd'hui, puisque créer est toujours très difficile, parce qu'on n'imagine pas la violence des réactions hostiles chaque fois qu'on fait quelque chose, et créer n'est possible que si on a des amis avec lesquels, on s'entre-soutien, on s'entraide, avec qui on parle et à qui on résiste.
Merci beaucoup Didier Héribon.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de cette rencontre d'Antoine Ravon avec Didier Héribon. À voix nue. Réalisation Marie Placet, prise de son François Rivalan, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.